Il est 6h presque une minute à la météo aujourd'hui. C'est du temps généralement nuageux, 40% de risque d'averse tôt ce matin. Il va faire à peu près 15 degrés, des vents quand même assez soutenus, comme un peu comme on a eu hier, là, une quarantaine de kilomètres heure, des rafales jusqu'à 60 en mi-journée ce soir. Et cette nuit, ce sera un ciel dégagé, il fera 8 degrés. Et pour mercredi, ben là, c'est du beau temps quand même, avec un maximum de 19. Pas chaud chaud, mais du beau temps. On va le prendre quand ça passe. Des averses prévues pour jeudi avec 20 degrés. Et pour vendredi, ben là, c'est alternant soleil-nuage 23. Et de la pluie pour samedi avec 19 degrés. Il fait 8 en ce moment à Montréal. Eh bien, dans les différents quotidiens ce matin, à peu près tout le monde parle de cette nouvelle assez importante parce qu'il y a une grande offensive des compagnie de téléphone là, pour les téléphones de la compagnie Huawei, le fameux géant chinois qui est en train de vendre, de prendre des bonnes parts de marché un peu partout à travers le monde, notamment ici au Québec. Et ben là, il y a une espèce de guerre froide technologique qui vient d'être lancée, puisque la compagnie Google a interrompu hier sa relation d'affaires avec Huawei. On se plie au décret du gouvernement américain de la semaine dernière qui impose à toutes les entreprises américaines d'obtenir le feu vert des autorités pour faire affaire avec des sociétés qui posent un risque pour la sécurité nationale. Et on sait que les Américains ont quand même des soupçons à l'égard du Chinois Huawei. Alors, avec toute la guerre juridique également de la présidente du développement des affaires de Huawei, qui est emprisonnée en ce moment, bon, emprisonnée à la maison quand même, là, à Vancouver, mais qui fait l'objet d'une démarche pour la faire comparaître aux États-Unis sous des accusations assez importantes. Bref, Google a dit hier à Huawei, vous pourrez plus utiliser Android, le système d'exploitation. En fait, ils vont pouvoir l'utiliser parce que c'est un système qui est ouvert, donc les droits ne sont pas détenus exclusivement par Google, sauf que Google va cesser de donner des services comme ceux de Map, par exemple, de Gmail ou encore de Chrome, ou même YouTube, qui ne seront plus accessibles aux clients de Huawei. Alors, les gens qui ont actuellement des téléphones Huawei vont pouvoir continuer à bénéficier de ces services-là, mais les nouveaux acheteurs ou les nouveaux clients là, qui vont se procurer de ces téléphones-là, ben, ne pourront plus avoir accès à des services comme ceux-là, puisque le système ne sera plus tenu en compte là, par Google et les mises à jour ne seront plus faites. Bref, ce que va faire Huawei, c'est probablement faire ses mises à jour elles-mêmes. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a une guerre commerciale assez intense qui va s'enclencher. Ça risque d'avoir des répercussions pour les clients. Alors, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair un peu plus tard dans l'émission, à savoir quelles sont les implications pour les gens, parce que on est tous plus ou moins dépendants, si on veut, de nos téléphones cellulaires. Et puisqu'on parle de Google, Pierre Couture, dans le Journal de Montréal ce matin, nous apprend que la grosse méga compagnie Google veut s'installer à Beauharnois. Le géant du web investirait un demi-milliard de dollars, ça c'est beaucoup de sous, pour la construction de plusieurs centres de données au Québec. Alors Google aimerait s'installer à Beauharnois sur les terrains qui sont détenus actuellement par Hydro-Québec. La ville de Beauharnois a même demandé au gouvernement un changement de zonage finalement pour les terrains d'Hydro-Québec pour qu'on puisse recevoir ce type d'immeuble ou de compagnie. À Beauharnois, Hydro-Québec détient 94 hectares de terrain qui sont zonés agricoles. Et là, il faudrait les dézoner pour permettre à Google de s'y installer. Ils sont déjà présents à Montréal, Google, mais on veut intensifier la présence au cours des prochaines années. La vente de centres de données de Google à Beauharnois pourrait être plutôt payante pour Hydro-Québec. On sait quand même que ce sont des centres qui utilisent et qui sont très énergivores parce que quand on parle, bien sûr, d'entreposage de données, ben ça implique des ordinateurs qu'il faut refroidir. Alors, ça implique énormément de consommation d'électricité. Et ça, ben Hydro-Québec pourrait vendre quand même jusqu'à 100 mégawatts d'électricité qui ont été réservés pour les besoins de Google à Beauharnois. Alors, ça serait quand même une nouvelle assez importante. Et pendant ce temps, ben François Legault, lui, se promène un peu partout aux États-Unis, là, surtout à New York, où il fait des rencontres avec des gens d'affaires. Et donc, François Legault essaie de vendre l'électricité d'Hydro-Québec À la grande ville de New York. Richard Etu, dans la presse ce matin, nous apprend que, en fait, M. Legault a rencontré le maire suppléant de la ville de New York concernant justement cet éventuel contrat d'approvisionnement en électricité qui pourrait rapporter 10 milliards de dollars sur une période de 20 ans à Hydro-Québec. Et donc, il lui a clairement dit, M. Legault, qu'Hydro-Québec était prêt à tripler, si on veut, l'investissement qu'on fait déjà dans l'État de New York. Hydro-Québec fournit 5% de l'électricité à l'État de New York. Alors, c'est un voyage où François Legault essaie de faire des gains, entre autres. Il dit là-bas aux gens d'affaires ce qu'il a répété l'automne dernier dans la région de Boston aux gens de la Nouvelle-Angleterre, que « we're open for business », c'est le mot d'ordre qu'il donnait aux gens d'affaires. On est prêt à faire des affaires avec vous. Et le message était, ma foi, plutôt bien reçu par les gens d'affaires de la Nouvelle-Angleterre. J'y étais à cette rencontre entre François Legault et les gens de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Angleterre. C'était à Boston. Et puis, M. Legault avait été accueilli de façon assez positive par les gens qui voyaient en lui l'homme d'affaires qui avait fondé Transat. Et donc, pour les politiciens de la Nouvelle-Angleterre et ceux également de la région de New York, bien, c'est perçu comme étant, un homme qui est prêt, qui a une approche, en fait, qui est plus une approche d'affaires qu'une approche politique. Alors ça peut plaire à une certaine classe d'investisseurs, notamment aux États-Unis. Bon, revenons dans la région de Montréal. François Bonnardel, aujourd'hui, va être assez occupé à 7 heures ce matin, donc dans à peu près un peu moins d'une heure. François Bonnardel, le ministre des Transports, va prendre le métro. Il va constater, en fait, sur la ligne orange à quel point on est tassé comme des sardines à l'heure de pointe. Alors, il va répondre à une invitation qui a été lancée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dont le projet d'une ligne rose n'est pas très bien accueilli par le gouvernement de François Legault. Selon elle, c'est la meilleure façon de désengorger la ligne principale du métro de Montréal, la ligne orange, alors que François Legault, lui, dit « Ben non, on pourrait prolonger la ligne bleue avec 5 nouvelles stations, puis ça permettrait de désengorger. » Alors, ce matin, Mme Plante convie François Bonnardel et Chantal Rouleau, le ministre délégué au transport responsable de la région de Montréal, à faire le fameux trajet pour constater des visous ce qui se passe vraiment là-bas. Et donc, c'est une espèce d'opération de relations publiques, si on veut, pour convaincre le ministre du projet de Mme Plante. Et pendant ce temps, le bureau de l'inspecteur général de Montréal, a de nouveau l'industrie du remorquage dans sa ligne de mire. C'est ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Daniel Renault dans la presse. Il y aurait eu une rencontre entre des importants joueurs de l'industrie du remorquage à Montréal et le crime organisé. Alors, une vidéo d'ailleurs de cette rencontre qui a été filmée à l'insu des participants. Une rencontre qui a été tenue en février 2016 entre un individu que la police considère comme étant un membre de la mafia montréalaise et les patrons de deux des plus importantes sociétés de remorquage de Montréal, la société Météor et Top Speed. Alors, la vidéo a été filmée il y a 3 ans. Elle fait surface au moment où, en fait, la Ville de Montréal a lancé un processus d'appel d'offres et expérimentait un nouveau processus d'attribution des contrats dans le secteur du remorquage de véhicules accidentés. Alors, on peut comprendre qu'il y a peut-être des gens intéressés par la diffusion de la vidéo, mais avant d'aller de l'avant, bien sûr, on veut en comprendre la teneur et le contexte pour savoir pourquoi, elle fait surface maintenant et qu'est-ce que deux propriétaires de compagnies de remorquage pouvaient bien avoir à faire avec un gars de la mafia. Alors, c'est un peu je pense, l'interrogation principale du bureau de l'inspecteur général. Il est 6h10, on va aller à la circulation avec Marc. Merci, Marc. Une lettre ouverte assez intéressante ce matin dans le journal La Presse, elle vient d'une dame qui s'appelle Louise Riendeau et qui est co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et elle fait référence, en fait, à la mort tragique de cette fillette de Granby dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. En fait, on a constaté qu'il y avait peut-être des instances responsables de la protection des enfants qui ne se parlaient pas ou en fait dont les contacts étaient peut-être pas optimaux. Puis le rapport également de la Commission des droits de la personne sur le décès d'une autre fillette survenue dans la région de Québec il y a un an et demi ou à peu près, démontrait que le dialogue entre la DPJ et les maisons de femmes violentées était peut-être pas très bon là-bas non plus. Alors Mme Riendeau écrit ce matin dans le journal La Presse, elle fait référence à un projet qui avait été mis de l'avant en 2015 pour faire en sorte que les groupes les associations de ces maisons de femmes violentées qui ont souvent des enfants puissent être en contact avec le DPJ pour protéger les enfants. Et là, elle donne des exemples assez frappants de ce qui peut se passer justement lorsqu'on les instances ne se parlent pas. Là, elle dit, par exemple, on demandait à des femmes violentées de participer à des séances de médiation avec le père ou de participer à l'élaboration commune d'un plan d'intervention. Je vous rappelle que c'est une femme qui est dans une maison pour femmes violentées avec son enfant. Elle s'en va là parce qu'elle veut se protéger d'un homme violent. Et là, la maison lui dit, « Ouais, mais peut-être qu'on pourrait, pour le bienfait, pour le bien-être de l'enfant, tu pourrais peut-être participer à des séances de médiation avec le père. » Imaginez, c'est effrayant. Elle dit même qu'on allait jusqu'à demander à des femmes qui avaient porté plainte contre leur conjoint et obtenu une ordonnance de garder la paix, de cesser de signaler les manquements aux ordonnances pour pas nuire au lien père-enfant. Alors là, tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis ça, c'est les instances qui sont censées protéger l'enfant, là. Et la mère aussi, du même coup. Alors en 2011, devant justement ces faits-là, Mme Riendeau raconte que l'association avait demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre sur pied un groupe de travail sur les difficultés d'application de la loi sur la protection de la jeunesse en matière de violence conjugale. Alors le groupe avait été formé, puis ils ont étudié la question, puis ils ont remis un rapport à l'hiver 2015. Or, ce qui s'est passé à l'hiver 2015, c'était la réforme de la santé et des services sociaux. Et ce que dit Mme Riendeau, c'est que le fameux rapport du groupe de travail est resté sur les tablettes. On s'en est jamais préoccupé parce qu'on avait d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire de faire la révision administrative du réseau de la santé. Alors, en tout cas, c'est intéressant. C'est dans la section opinion de la Presse Plus. Vous allez trouver cette lettre-là qui est assez révélatrice des problèmes de communication qu'il y a eu au sein de différentes instances au cours des dernières années. Il y a eu des cas qu'on a connus, mais il y a peut-être des cas qu'on ne connaît pas et qui sont quand même assez importants également. Alors, j'espère que la fameuse commission qu'on va mettre sur pied, qu'on veut à politique et dont on ne connaît pas encore la forme et la teneur, là, ça devrait être annoncé, nous dit-on, à la suite des négociations avec les différents partis à l'Assemblée nationale. Ben, j'espère que ça va permettre de mettre en lumière des situations comme celle-là et de pouvoir essayer d'améliorer la communication pour que tout le monde puisse être protégé, les enfants évidemment en premier, mais les femmes aussi qui sont impliquées dans des situations comme celle-là. Alors, j'espère que Mme Riendeau sera entendue. Dans le journal Le Devoir, on fait état de cette histoire qui se déroule en France, une espèce de mélodrame sous fond de lutte pour l'euthanasie ou contre l'euthanasie, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est quand même un débat de société en France qui est assez vibrant et qui nous rejoint, nous également, ici au Québec. Alors, c'est l'histoire de Vincent Lambert, qui est un infirmier qui a été victime d'un accident de la route en 2008 et qui a été laissé dans un état neuro-végétatif depuis ce temps-là, ça fait 11 ans. Et au fil des ans, son épouse a demandé à ce qu'on le débranche parce qu'il n'y a aucune chance, selon les médecins, qu'il puisse un jour sortir de cette espèce de coma neurovégétatif. Il ne réagit pas à rien, à presque aucun stimuli, sauf peut-être ce qu'on appelle de la souffrance neurologique, parce que, semble-t-il, qu'il peut y avoir cette forme de conscience de la souffrance, même quand on est dans un état comateux. Bref, on avait demandé à ce qu'on le débranche. C'était à l'époque, je pense, en 2013 ou 2015. Et là, les parents de Vincent Lambert, contre l'avis de son épouse, l'épouse de M. Lambert, ont demandé à ce que le tribunal fasse reprendre les traitements pour le maintenir en vie. Et depuis ce temps-là, il y a eu d'autres procédures devant les tribunaux. Hier, on a commencé à arrêter les traitements parce que un tribunal de l'Union européenne avait dit, regardez, arrêtez les traitements, on en est rendu là légalement, etc. La loi avait été respectée. Mais encore une fois, les parents de cet homme-là, qui sont ultra-religieux, impliqués dans les groupes pro-vie, etc., ont réussi à obtenir une ordonnance du tribunal pour faire reprendre les traitements. Et donc, la saga de Vincent Lambert se poursuit. La femme de Vincent Lambert, Rachel, dit que son mari, avant son décès, lui avait dit que dans un cas semblable, il voudrait pas qu'on s'acharne pour le maintenir en vie. Sauf qu'il n'y a aucune trace qui a été laissée de ça, il n'y a aucun écrit qui vient le démontrer, et ça fait peut-être partie justement d'une réflexion qu'on devrait avoir au Québec. Est-ce qu'on doit laisser une espèce de testament au cas où un événement semblable nous arrive, tu sais? Est-ce qu'on ne devrait pas aller chez le notaire puis dire, « Mais regardez, là, si moi je suis victime d'un accident, que ce soit un accident de la route, que ce soit un accident de santé qui me laisse dans un état neuro-végétatif, ben, je veux pas qu'on s'acharne sur moi et puis qu'on... » Alors, s'il y avait eu cette espèce de document-là, on n'en serait probablement pas dans cette position-là aujourd'hui. On doit se fier absolument à la parole de Madame Lambert, son épouse, qui, elle, jure dur comme fer que son mari lui a dit que dans un cas comme celui-là, il ne voudrait pas qu'on poursuive les soins. Alors, c'est toute une question d'éthique, bien sûr, d'éthique médicale également, qui est en sous-main de cette espèce d'histoire complètement épouvantable en France. Le Canada n'atteint toujours pas son plein potentiel, c'est ce qu'on peut lire dans un document qui sera rendu public aujourd'hui par la ministre Mélanie Joly, qui va venir nous en parler en studio un petit peu plus tard, vers 7h25 ce matin. C'est le plan pour le développement du tourisme au Canada qui sera déposé aujourd'hui ou présenté aujourd'hui par Mme Joly. Alors, elle va tenir un discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, où elle va expliquer, en fait, sa vision du tourisme pour les années à venir. On voudrait créer 54 000 nouveaux emplois d'ici 2025 dans le tourisme au Canada, générer 25 milliards de dollars de plus en activité économique au pays. C'est déjà une industrie qui rapporte quelque chose comme, je pense, c'est 102 milliards de dollars que cette industrie-là du tourisme au Canada. C'est quand même une industrie assez importante. Et donc, elle va venir donner sa vision de la chose, comment on doit développer le tourisme. Et une des choses qu'on apprend en lisant le document en question, c'est qu'on voudrait essayer de diversifier l'industrie touristique en sortant des trois grands pôles touristiques du Canada, c'est-à-dire Montréal, Toronto et Vancouver. Généralement, ce que font les gens, même s'ils vont visiter les attraits naturels quand même au Canada, là, on a des parcs nationaux extraordinaires, puis on a des attraits naturels fantastiques, mais souvent, on commence par une visite ou on finit par une visite dans les grands centres et par la suite, on se dirige vers les centres périphériques de tourisme. Et là, on voudrait essayer de diversifier ça, les amener dans le Grand Nord, les amener à des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller en ce moment. Et on voudrait aussi attirer des investisseurs internationaux pour essayer de diversifier l'offre touristique chez nous au Canada. À part ça, qu'y a-t-il d'autre dans les différents quotidiens? Bien sûr, on parle beaucoup des routes à Montréal, l'état des routes. J'en parlais tout à l'heure sur l'autoroute 20, c'est pas bobo dans certains endroits. Bon, vous dire une chose, ça prend une suspension bien accrochée. Et ce qu'on apprend également dans le journal de Montréal, c'est que le quart des rues de la ville de Montréal sont dans un état lamentable. Bon, c'est sûr qu'eux ont mis la main sur une étude qui le démontre, mais il faut juste circuler dans les rues de Montréal pour comprendre à quel point la situation est rendue à ce point difficile quand tu es automobiliste. Tu sais, ça prend de la conduite, moi j'appelle ça de la conduite créative. Faut que tu aies une voiture là qui répond rapidement, mettons, quand tu vois un nid de poule sur les rues, puis en faire le tour. Alors, ce qu'on dit dans cet article, c'est que la ville de Montréal peine à réparer les rues qui sont très endommagées. Ils ont mis la main sur la plus récente étude de l'état des routes, des artères, en fait, de la ville de Montréal. Il y a 9 ans, juste pour vous donner une idée, 15% du kilométrage des rues de Montréal était jugé en très mauvais état, 15% il y a 9 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est 22%. Alors, ça ne va pas en s'améliorant, là. Et il y a des endroits même où on avait quand même investi des sommes d'argent assez importantes pour refaire le pavage, parce que il y avait trop de nids de poules. Ben, à un moment donné, c'est bien beau rapiécer, mais quand tu ne peux plus le faire, il faut tout refaire la fondation de la route. Et on l'a fait. Le problème, c'est que quand la route est trop en mauvais état en dessous de l'asphalte, ben ça dure pas. De sorte qu'il y a des endroits, par exemple, la rue Hogan, près de Marianne, dans l'arrondissement le Plateau Mont-Royal, qui est passé d'une note quasi parfaite de 86% il y a quelques années au score pitoyable de 16% en termes d'état des routes en 3 ans seulement. Alors, vous pouvez voir que ça se dégrade à vitesse grand V. Et d'ailleurs, il y a des travaux un peu partout là, sur l'île de Montréal. Il y a des cônes oranges à peu près partout, on le sait. Et notamment sur la rue Sainte-Catherine, où les commerçants sont vraiment inquiets de ce que leur réserve la saison touristique, parce qu'il y a des portions, bien sûr, de la rue Sainte-Catherine qui sont en rénovation en ce moment. Et puis, certains commerçants craignent des pertes d'achalandage qui pourraient avoisiner les 30% du chiffre d'affaires et même davantage au cours des prochains mois. Alors, on demande à la Ville d'amener des solutions. Et tiens, terminons avec le couperet qui tombe chez Ford. 7000 emplois dans le monde d'ici la fin août qui vont être coupés, c'est 10% de son effectif. On parle de 800 emplois en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, ça inclut bien sûr les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors, on ne sait pas cependant de façon régionale si au Canada, on va être touché davantage qu'ailleurs. Il est 6h23. Le pont Champlain-Marc.